Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme, le Ilou Neshama de Alain Nissim Ben Anna Zichron Levracha, la question de Rouven.
Voilà, ma question est, quelle attitude avoir par rapport à des communautés où le nombre de personnes est limité, le nombre de personnes pratiquantes, et où dans un minyan, dans une communauté, il n'y a pas suffisamment de personnes qui composent le minyan, qui sont vraiment chômeurs Shabbat convenables comme il faut. Et donc, quelle attitude avoir? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire? Donc je parle surtout pour les cas où on est dans des zones où il n'y a pas beaucoup de Torah, il n'y a pas beaucoup de Netorah. Voilà.
Question, très bonne question et très difficile. Pourquoi? D'abord, on explique un peu le principe qui régit un peu le pourquoi de ta question. Certaines mitzvot ne peuvent se faire que s'il y a un public de 10 personnes juives, telles que la prière qu'on appelle en tzibour, en public. Une prière peut se faire sans le public, mais elle passe beaucoup moins bien. Celui qui a un minyan dans son quartier, minyan c'est un groupe de 10 personnes juives. Il a un minyan dans son quartier, donc de 10 personnes juives qui prient et n'y va pas, est appelé un shachen ra, un voisin mauvais. On a besoin de lui et il vient pas. Et il faut prier en public. On peut être désengagé de l'obligation de prier en public si ça ne prendra plus de 18 minutes d'arriver à un endroit où il y a le minyan. Pardon ? 18 minutes, c'est une période de temps, on appelle ça un mille, d'accord, qui a beaucoup de titres, ce laps de temps revient. D'autres mitzvot, tels que le kaddish, si on va par exemple sur la tombe d'un défunt, on ne peut pas dire kaddish s'il n'y a pas 10 personnes. Si on prie en public et une personne s'endort, ou part, ou se trouve tout simplement dans la synagogue, mais hors de, on appelle une chose qui s'appelle Tzurat HaPetach. Deux domaines sont différenciés par ce qu'on appelle Tzurat HaPetach. C'est quoi Tzurat HaPetach? Une allure de porte. C'est quoi une allure de porte? C'est deux poteaux sur lesquels sont posés un linteau. Ça veut dire que chaque fois que tu as une porte, tu as des poteaux, c'est pas forcément des poteaux, tu as des murs qui rentrent, et tu as encore une partie de mur, même très très petite, qui est au-dessus. C'est impératif que ce soit au-dessus des poteaux. On considère qu'on a ici une porte. Par exemple, le Rav Eliashiv conseillait les personnes qui n'ont pas de lavabo hors des toilettes. Il est beaucoup mieux de se laver les mains hors des toilettes que dans les toilettes. Si on n'a vraiment pas le choix, se laver les mains dans les toilettes, ça peut être valable. Mais c'est vraiment si on n'a pas le choix, parce que normalement, quelqu'un qui met même le petit doigt dans les toilettes, quand il sort, il doit se laver les mains. Alors comment tu laves les mains dans les toilettes et après tu sors? C'est pas bien. C'est en cas de force majeure, on peut, vu qu'aujourd'hui les toilettes ne sont pas comme ceux qu'il y avait à l'époque, alors, il y a certains décisionnaires qui disent qu'on conserve les toilettes que la partie qui est au-dessus de la cuve, de la cuvette, d'accord? Mais ce n'est pas clair. D'autres, la majorité des décisionnaires, considèrent que tout l'endroit des toilettes est considéré comme les toilettes. À cet égard, même si on met le petit doigt dans les toilettes, il faut laver les mains sur les deux mains. Si un élément rentre dans les toilettes, on ne peut pas le manger, d'accord? Les toilettes sont impures. Alors c'est un élément qui a beaucoup de valeur, tant que ça n'a pas été au-dessus de la cuvette, on peut alléger, parce qu'il y a des avis un peu différents. Donc quelqu'un maintenant qui a un lavabo dans les toilettes, c'est très ennuyeux, parce qu'il lave les mains dans les toilettes, voilà, quand il sort de se relever les mains encore une fois, il n'a pas d'autre lavabo, il rentre dans les toilettes, il lave les mains encore une fois, parce qu'il était dans les toilettes. Bon, c'est... Alors Rav Eliashiv a conseillé, bah, tu n'as qu'à partager tes toilettes en deux. Tu fais une antichambre des toilettes, qui est la chambre du lavabo, et tu fais les toilettes. Comment on fait pour faire deux chambres? C'est très simple. Je mets deux poteaux et un linteau. Comment on fait un poteau? Tu prends, il faut pas grand-chose. Il faut un morceau de bois ou de fer n'importe quoi, très fin même, qui fait 80 ou si possible 96 cm de haut minimum, qui part depuis le bas. Tu le poses. Il faut qu'il soit solide pour pouvoir tenir une porte de paille. C'est pas quelque chose de très très gros, d'accord? Donc une petite baguette de bois que tu mets comme ça, tu colles d'un côté, de l'autre côté des toilettes, tu as deux poteaux, et en face, et ça, attention que ça vraiment avec un fil à plomb, exactement en face de la largeur du poteau, il faut qu'elle soit comme ça, d'accord? Pas comme ça, pas comme ça, mais sur le poteau. On va dire ça, c'est le haut du poteau. Il faut que le linteau, donc la partie qui est en haut, qui est posée, elle est posée sur. Pas là, pas là. Maintenant, il ne faut pas que ça soit posé sur forcément dessus. Ça peut être sur, au-dessus, bien au-dessus. Donc, je repère exactement l'endroit sur le plafond qui est exactement perpendiculaire au-dessus du haut des poteaux. Et j'y colle là-bas un fil. Même un fil de coton fin pour la couture, ça va. Un fil, une baguette, n'importe quoi. Là, d'après la halakha, j'ai deux chambres séparées. Donc, quand je lave les mains, je suis hors des toilettes. Je peux faire la prière dans cette chambre-là. On ne peut pas faire la prière face aux toilettes, d'accord? Mais tu te retournes, sans regarder les toilettes, sans regarder la cuvette, tu peux faire le moussaf de Yom Kippour, parce que t'es dans un autre endroit. Et c'est très trompeur. Hier, j'étais par exemple, où est-ce que j'ai vu ça? C'était on a un mariage. Une salle fréquentée par beaucoup de religieux, etc. Je vais aux toilettes. Bon, comme tous les êtres humains, ça m'arrive d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. Et les lavabos sont, bien sûr, pas dans les toilettes. Ils sont à l'extérieur. Tu as plusieurs portes. Bon, tu sors là-bas, les lavabos, machin. C'est un salon très, très distingué, machin. Donc, tout en marbre, hein, tu laves les mains, tu as les machines, tu viens te sécher ou servir ce que tu veux. Et je regarde et je vois qu'il y a un gros problème. C'est que les toilettes, la différence entre les toilettes et l'endroit où il y a les lavabos, comment il y a une différence? C'est que tu as des sortes de petits poteaux qui sont posés par terre sur lesquels tu as les portes. Et tu n'as pas de linteau en haut. Donc en fait, bien qu'il y ait une porte qui sépare les deux, les toilettes et l'endroit de lavabo, c'est le même endroit. Et les gens vont faire une tête d'ail, ils font la bracha, ils sont dans les toilettes. Personne n'a jamais autorisé de faire la bracha dans les toilettes, ça c'est certain que c'est interdit. Même ceux qui disent qu'on peut considérer que hors de la cuvette, c'est pas les toilettes, pas au point de dire le nom de Dieu. Au point qu'on ne t'oblige pas à laver les mains de nouveau quand tu sors, si tu amènes un aliment, à le jeter. En parenthèse, pour des aliments, quand on a un aliment dans les toilettes, il faut jeter. Mais il y a une solution, c'est quoi? Lui faire des tefillat yadayim. Comment on fait? On prend un keli, donc un ustensile, et on verse trois fois de l'eau sur l'aliment. Alors si c'est un bonbon, ça va, si c'est un fruit, ça va, mais si c'est du pain. Alors il y a une combinaison extraordinaire, c'est qu'on congèle le pain, et après on peut faire des tefillat trois fois sur le pain congelé, ça marche, d'accord? C'est tout à fait valable, et le pain est mangeable. Si c'est autre chose, des fois, c'est ou de la viande hachée, par exemple, ça arrive, quelqu'un, il y a eu un cas, une petite fille est allée faire des emplettes pour sa mère à l'épicerie, elle revient, elle a eu très besoin d'aller aux toilettes, elle rentre avec tous les sacs de nourriture, tout est garanti dans les toilettes. Bah, alors, il y avait de la viande hachée, qui était fraîche, tu la congèles, après, quand elle est congelée, tu fais trois fois, tu verses de l'eau de avec un keli, c'est cacher. Sans bracha. Non, la viande hachée doit faire la bracha. Pardon? Ça change rien, non. Salle de bain, c'est pas la salle de bain. Hein. Hors de la baignoire, il n'y a aucun problème. C'est déconseillé de faire la bracha dans la salle de bain, tu feras à l'extérieur. Mais il n'y a aucune nécessité, quand on passe dans la salle de bain, sans mettre la main au-dessus de la baignoire, de se laver les mains. Par contre, dès qu'on met la main sur la baignoire elle-même, alors là, il faut faire une tefillat yadayim parce que il arrive que les gens fassent leurs besoins dans les baignoires. Voilà. Il n'y a aucun problème à faire une tefillat yadayim dans une salle de bain tant qu'on n'a pas mis la main au-dessus de la baignoire. C'est bon, on fera attention de faire la bracha hors de la salle de bain. Donc tout ça pour dire qu'il y a une chose qui s'appelle Tzurat HaPetar, une allure de porte. Alors des fois, on est à la synagogue, comme par exemple ici. Voilà, ici. On prie. Maintenant, il y en a un qui prie dans la salle à côté. Les portes sont ouvertes, il est avec nous, tout ça. Mais il est hors, il y a une sourate à pétard entre les deux. Donc d'après la halakha, il n'est pas considéré dans le même endroit, bien qu'il est avec nous. Donc elle est avec nous ici, en train de prier, mais en fait, elle est dans la salle à côté. Alors elle croit, on la compte comme dixième, c'est pas une dixième. Et dans ce cas-là, on ne peut pas faire Kaddish. On peut pas faire la Chazara, impératif que lorsqu'il y a la Chazara, donc quand la Chartibour, l'officiant, le ministre officiant, fait la prière à haute voix, il est impératif qu'il y ait 9 personnes, lui étant la dixième, qui répondent Amen. S'il n'y en a pas 9 qui répondent Amen, et ça arrive très souvent, un qui rêve, il ne répond pas, d'accord? Alors c'est Makom Shulchan Arour que probablement le Chartibour, il a fait Brachal Batala, il a fait une bénédiction en vain, et c'est marqué qu'on transgresse le troisième des 10 commandements de la Torah qui est extrêmement grave. C'est pour cela que quand quelqu'un sait qu'il y a ici même 20 personnes, mais parmi ces 20 personnes, il y en a certainement beaucoup de rêveurs, ils ne vont pas répondre « Amen ». Ou même s'ils répondent « Amen », c'est machinalement, mais ils ne savent même pas à quoi ils répondent. Et ce, leur « Amen », il ne vaut pas grand-chose. Il est nécessaire que les neuf personnes sachent, ils entendent ils répondent « Amen » à la baraque qu'ils ont entendue. Ils savent à quoi répondre « Amen ». Ils doivent penser à ce que dit le ministre officiant. C'est rare que les gens y pensent. Si tu n'as pas 10 maintenant, donc 9, 10 avec le ministre officiant lui-même, qui répondent « Amen » et qui savent, qui pensent à quoi ils répondent « Amen », le ministre officiant, il a fait « Bachal et Batala ». Et ceux qui ont répondu « Amen », ils ont fait une « Amen et Batala ». Ils ont fait un « Amen », on appelle ça un « Amen orphelin ». C'est marqué dessous, celui qui dit un « Amen orphelin », grâce à Shalom, ses enfants aussi seront orphelins. Donc c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce piège? On dira au ministre officiant qu'il fasse une condition, qu'il dise « Si, d'après la vérité dans le ciel maintenant », moi, je ne sais pas, je suis en train de prier, je ne sais pas si tout le monde répond « Amen ». Si tout le monde répond « Amen » comme il faut, et on peut considérer ma prière comme une « Hazara », comme une vraie prière à haute voix, parce que tout le monde répond « Amen » comme il faut, alors qu'elle soit considérée comme une vraie prière. S'il n'y a pas les conditions requises pour cela, alors que ma prière soit considérée comme une prière d'offrande. On déconseille de faire cela, parce que vu qu'aujourd'hui, quand on fait une prière, on prononce le nom de Dieu, et il arrive souvent qu'on le prononce sans avoir les pensées adéquates. Alors, ce qu'on est obligé de faire, les trois prières, on doit le faire. Mais pourquoi aller maintenant rajouter une prière supplémentaire? Qui t'a demandé d'aller rappeler le nom de Dieu maintenant? Dieu te dit, qu'est-ce que tu rappelles mon nom? Tu demandes quelque chose maintenant, on te rappelle mon nom sans y penser. Donc aujourd'hui, l'habitude est de ne pas faire de prière d'offrande. Mais dans les cas où il y a une nécessité, telle que, pour sortir d'un safek, d'un doute, où on fait voir le batala, alors on peut faire une condition, et dire, si d'après la vérité maintenant, je suis rendu quitte de la Hazara comme il faut, alors c'est bon, sinon, que ma prière soit considérée comme une prière d'offrande. Et dans ce cas-là, en plus, je peux répondre Amen à une personne qui prie à haute voix. Comprenez? Si c'est une prière d'offrande, ça, on peut répondre Amen. Même si on est 8, 6, 5, ça fait rien. Si maintenant, lui, il fait la Hazara pour nous rendre quitte de la Hazara, et il n'y a pas les 9 personnes qui répondent, c'est Bachal Batala. Attention, je donne 2-3 petits aussi détails supplémentaires, faire attention à cela, c'est important parce que c'est une vraie maladie francophone. D'accord? Peut-être mondiale, en tout cas moi je connais le monde français, pas francophone, française. C'est une maladie française, mais terrible, terrible, terrible. Comme je dis, pour que la Hazara soit valable, il faut qu'il y ait 9 personnes qui répondent Amen. Maintenant, un Amen, ça se répond d'une certaine façon. Si par exemple, le Shar Tzibour dit « Magen Avraham », et quelqu'un a répondu « Amen » avant que Shar Tzibour ait fini le mot « Avraham ». Donc il a répondu « Amen » à quoi ? À « Avraha ». « Baruch Ata Hashem, Magen Avraha », ça ne veut rien dire. Donc ton « Amen » il vaut rien. Tu as fait un « Amen » Yetoma. Tu as fait un « Amen » qui est orphelin. « Chassé Shalom, tes enfants seront orphelins. » C'est une malédiction, c'est terrible. Maintenant, vu que tu n'as pas répondu « Amen », le Shar Tzibour non plus, tu étais le 9e nécessaire, d'accord, le 10e en tout. Donc, le Shar Tzibour, maintenant, il n'a pas fait sa Hazara comme il faut. Et tous les autres qui ont répondu maintenant, ils ont fait aussi Amen et Thomas. Donc, toi, par le fait que tu aies répondu Amen avant la fin de la bracha du Shar Tzibour, tout est fichu. Maintenant, d'habitude, il faut faire attention, il faut faire très attention. Maintenant, où est le problème? C'est qu'il y en a qui sont pressés de répondre. Ce matin, j'ai fait un Michel Bérard, quelqu'un répond Amen avant la fin. Ben Omar, déjà, il a répondu. Je me suis arrêté au milieu. Pour pas qu'il il répond quand même, trop vite. Les gens sont pressés. Attends que la baraque soit terminée. Il répond Amen après. C'est le problème de celui qui répond Amen. Le problème, il est d'habitude où? Chez Shar Tzibour. Et là, je vais mettre une couche parce que c'est. Il y a deux problèmes. Le premier qui est petit, mais le deuxième, c'est un problème. Je vous dis, c'est rare que je vois une synagogue où ça se passe comme il faut bien. C'est terrible. Le premier problème est lequel? La musique. Certaines communautés sfarades aiment chanter. Et ils ont une maladie où ils chantent à la fin des brachot. Alors, comment ils font ? Magen Avraham. Et les gens toussent. Des fois, il y en a un ou deux qui partent, mais rarement il y en a 10 qui répondent Amen qu'après la fin de Avraham. Parce que Avraham, tout le monde répond déjà Amen. Et je leur dis, et je répète, impossible. C'est la musique, c'est sacro-saint. Parce que si tu réponds Magen Avraham, tu n'as pas de Magen Avraham, alors tu n'es pas chez Artibourg. Terrible, terrible. Mechaye Ametim, Akel Akadosh. Tout répond Amen et terminé. Et toute la prière ne vaut rien, zéro. Zéro, pas que zéro, c'est des averotes, on fait des péchés sur péchés. Ça, c'est une question que je me pose ça. Ta question elle est comme ça. S'il y en a une qui est mauvaise, Alors, est-ce qu'on peut répondre au reste ou pas? C'est un problème insoluble. Je pas, faudrait que je vérifie bien. Moi, c'est le problème que, vu que souvent ça m'arrive, là, d'être dans ce genre de minyan. Maintenant, t'as un problème. C'est vrai que celui qui répond pas amène une bracha, c'est terrible ce qui est marqué sur lui. Pas répondre amen une bracha, c'est terrible. Attends, répondre amen, alors que tu ne veux pas répondre parce que c'est une bracha les batala, c'est aussi terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, mais il a fait, t'es là, tu sors dehors, maintenant t'es le dixième. Moi, que je prie longtemps comme ça, je prie longtemps, je suis après la Khazara, pépère, ils font ce qu'ils veulent, je suis au courant de rien, d'accord? Mais des fois, ils t'attendent, t'es le dixième. Alors la solution, c'est, et je ne sais pas si elle est valable à 100%, c'est que tu dis le verset des Tehilim, Baruch Adonai Laolam, Amen Vamen. Tu peux dire ce verset, tu peux dire un verset Tehilim, tu dis Baruch Adonai, Amen Vamen. Baruch Adonai, je peux répéter maintenant un verset tant que je veux. Quand le Jartibourg, il arrive, il va dire maintenant, il dit Baruch ta Hashem, et tout le monde répond Baruch ou Baruch Shemo, moi je réponds Baruch Hashem Leolam, je ne dis pas Hashem, je dis le nom Ado, d'accord? Baruch Ado, et puis Naï, Leolam, le Jartibourg, il dit Magen Abraham, moi je réponds Amen ve Amen. Je finis mon verset. Est-ce que c'est valable à 100%? Je n'ai pas vérifié. En tout cas, je pense que ça limite la casse, en tout cas. Je dis pas, bon, franchement, c'est pas obligatoire. C'est bien de répondre, c'est pas obligatoire. Là, je sors du problème où dans des tas de cas où, on va voir maintenant ta question, Rouven, d'accord, les cas où on ne sait pas exactement que vaut le tzibour. Pour sortir de la situation, tu réponds comme ça. Oui. C'est vrai. Toi, tu dis pourquoi faire la chazara? Alors, qu'à l'origine, la chazara était faite pour les ignares qui ne savaient pas faire la prière, alors on l'a fait haute voix pour eux. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'ignares, c'est faux, il y en a quand même beaucoup. Mais les ignares, ils ne pensent pas être rendus quittes. Pourquoi on fait tous ces problèmes-là? La vérité, c'est qu'au niveau de la mystique juive, de la Kabbalah, il y a une très grande importance à la chazara. Elle est plus importante que la Hamida. La Hamida, de nous, de l'achash, la prière qu'on fait nous à voix basse, on a fait, pourquoi on l'a fait à voix basse? Parce qu'elle arrive à un certain niveau où il y a encore des forces du mal qui peuvent attraper notre prière. C'est pour ça qu'on l'a fait à voix basse. Et d'après la Kabbalah, il ne faut même pas qu'on s'entende nous-mêmes chuchoter. D'après la Kabbalah. D'après le Pshat, ils disent au contraire, il faut absolument que tu t'entends chuchoter, chacun fera comme il veut. Il y en a qui font comme ci, il y en a qui font comme ça. La Chazara, tu l'as fait à haute voix, parce qu'elle monte tellement haut que c'est un endroit où il n'y a plus de puissance du mal qui peut attraper la prière. Donc elle est très très haute, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Donc c'est très difficile de dire, on ne fait pas de Chazara. Maintenant, le vrai problème. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, qui est le beaucoup, beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux, et c'est une maladie, et si quelqu'un maintenant m'entend sur Internet, qu'il aille commencer à rappeler cela dans les synagogues, parce que c'est une épidémie. Et c'est terrible, et je me demande s'il y a une chazara normale en France, ou au Canada, ou partout où j'ai été, voire c'est vraiment terrible. Et je parle, et j'explique, et je dis au rabbin, et je dis au charsibou, oui, impossible. C'est une maladie, c'est comme fumer, ils n'arrivent pas. Il est absolument nécessaire, d'après la halakha, que lorsque le Shahar Tzibourg finit une bracha, il dit Magan Abraham, après il va commencer à la deuxième bracha, Ata Gibor Elolam Hashem. Il est absolument nécessaire de laisser le temps au Tzibourg de répondre Amen avant de commencer la deuxième bracha. Si le Shahar Tzibourg fait comme ça, Baruch Ata Hashem, Magan Abraham, Ata Gibor Elolam Hashem, entre les deux, il n'y a pas eu de temps. Magen Abraham attaque Gibor Hashem. Et les gens répondent Amen. C'est Amen. Les Batala, c'est une Amen orphelin. Il n'y a pas de Chazara. Et donc, vu que c'est Amen orphelin, pour le Chartibour, c'est une Bracha les Batala. Toute sa Chazara, il a fait 19 Brachot de Batala, Mazal Tov. Et ça, c'est une maladie terrible. Maladie terrible. Parce que quand nous, on prie tout seul, on n'a pas besoin de laisser un arrêt entre deux Brachot. Tu pries tout seul, personne ne répond Amen. Quand tu pries maintenant à voix basse, tu dis, Magan Abraham, Atagibor Hashem, Mechayam Etim, Atakadosh. Tu ne fais pas d'arrêt entre chaque bracha. Il faut prendre l'habitude que lorsqu'on est maintenant chez Artibourg, on n'est pas tout seul. Il faut laisser au Tibourg, au public, le temps de répondre Amen. C'est un certain temps, c'est une seconde au moins. Sinon, et c'est, les gens n'arrivent pas à se mettre ça dans le crâne, que si on recommence la bracha d'après avant que le public ait répondu Amen, dans ce cas-là, le Amen n'est pas valable et c'est bracha les batala pour tout le monde. Et c'est Amen, et c'est très grave, très grave. Donc des gens font la chazara, ils attendent bêtement, ça prend comme 5 minutes de leur temps, que c'est rien que des averot.
C'est un jbar, c'est pas les batala. C'est pas comme s'ils faisaient un serment avec le nom d'Hachem et ils montaient. On fait une bracha.
Le troisième des 10 commandements qui dit tu... Écoute-moi, le troisième des commandements qui dit tu ne prononceras mon nom en vain, et le marloket aposkim. Pour les Sfaradim, quelqu'un qui dit Hachem, 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 comme ça le nom de Dieu pour rien, il fait un interdit des Rabbanan. Et c'est quand il fait interdit de Horaïta de rappeler le nom de Dieu en vain, quand il fait une bracha le batala, quand il dit une bracha en vain. Il transgresse le troisième des 10 commandements, plus encore un autre interdit qui est Vayirat Hashem Elokecha, d'avoir la crainte de Dieu. Comment tu appelles le nom de Dieu comme ça en vain? Tout mon intention bonne. Attention bonne, c'est que j'en crois. Mais il y a halakha. Il y a halakha. Quelqu'un, qu'est-ce que j'en sais moi? Il écrit un Dayan. Il écrit maintenant un guet pour une femme. Une femme maintenant, elle s'entend pas avec son mari, voilà, guet, ok. Maintenant, lui, il a très bonne intention de faire le meilleur guet du monde. Il a fait une erreur dans le guet. Cette femme, elle est mariée, oui ou non? Elle se marie. Elle se remarie, elle est adultère. C'est pas de sa faute, mais elle est adultère. Les enfants, même Zérim. Un beau jour, on voit, le guet, il est pas bon. D'accord? Les enfants sont mazer. J'avais une bonne kavana. J'avais une bonne intention. T'as une bonne intention. T'as fait maintenant une série de mamzerim, c'est pour toujours. Terminé. C'est bien joué, l'intention. Dieu voit l'intention. Ok, mais il y a aussi comment faire. Ok? Il faut résumer. Il faut résumer. Que, première chose, le cher Tzibour, avant sa Amida, il pose une condition et dit, si maintenant ma Khazara n'est pas valable, que ça considéré comme une filat nedava, comme une... Ça vaut la peine. Le fait que ça considéré... Il faut le dire, je pense, c'est mieux de le dire. Est-ce que c'est obligatoire de le dire? Je pense que c'est mieux de le dire. Comme je dis, que si jamais ma Khazara n'est pas valable, que la prière que je fais maintenant soit considérée comme une prière d'offrande. Première chose. Ensuite, chaque bracha, il finit en chute. Pas en terminaison longue, en chute abrupte. Magen, Abraham, Mechaye, Hametim, Hakel, Hakadosh, etc. Ensuite, il laisse le tibour répondre Amen. Et là, le tibour, son rôle est de ne pas répondre Amen avant la fin de la bracha. Mais si le char tibour, il répond de façon abrupte, alors le Amen ne commencera pas avant qu'il ait fini sa bracha. Et que le char tibour ne recommence pas la bracha d'après, avant que la majorité du tibour ait répondu Amen. Un Amen, la longueur d'un Amen est la suivante. Le temps que ça prend de dire, quel Melech Naaman? Quel Melech Naaman? Amen. Voilà, Amen. Amen. Ça, c'est un amène normal. Bon. Alors, maintenant, j'arrive à ton point. On était très, très loin du compte et je ne sais pas si on y arrivera. Vu qu'il faut que 10 personnes juives, il y a certains péchés que si une personne juive transgresse de façon consciente, sachant que c'est interdit, alors elle perd à certains égards, je souligne à certains égards, son statut de juif. Par exemple, quelqu'un qui est idolâtre, quelqu'un qui n'est pas croyant en Dieu, ou qui croit qu'il y a plusieurs dieux, ou toutes sortes de choses qui sont contraires au fondement même du judaïsme. Il perd à certains égards son statut de juif. Il y a aussi une chose qui, d'après la Torah, est considérée comme extrêmement grave, au point où quelqu'un qui transgresse cela perd son statut de juif à certains égards, c'est qu'on appelle Mechalel Shabbat Befaresia. Celui qui transgresse le Shabbat en public. C'est quoi en public? De façon à ce qu'au moins 10 personnes religieuses juives, religieuses, pratiquantes, sachent ou voient qu'il transgresse le Shabbat. Donc quelqu'un qui vient maintenant en voiture le Shabbat à la synagogue. C'est clair que ça plaît, c'est en public, les gens le voient, ils ne se cachent pas. La question est-ce qu'il appelait conscient ou pas conscient? Et là, toute la question. Parce que s'il n'est pas conscient, alors on peut le considérer comme inconscient, ce n'est pas de sa faute, et il ne perd pas son statut de juif. Si par contre il est conscient que c'est interdit, alors il perd son statut de juif à cet égard-là. Alors c'est quoi, à quels égards? Par exemple, on ne peut pas le compter dans un minyan. S'il fait kaddish, on ne peut pas répondre. Surtout on peut faire tchouva. Absolument. Surtout on peut faire tchouva. C'est marqué par exemple, si quelqu'un fume Shabbat, qu'il voit au loin un rabbin qui vient, rapidement tac, il éteint la cigarette. Ça va. Il a fait Navera. En éteignant. Je me souviens une fois que quand j'étais jeune. Ouais, bien sûr. Une fois que je priais avec le Rav Ovadia Yosef. Il avait une petite synagogue pas loin de chez moi. J'étais juste tout nouveau marié, première année. Et lui revenait de la synagogue avec sa famille, les admirateurs. Enfin, il y avait une dizaine de personnes qui venaient comme ça au milieu de la rue, comme ça qui en est. Moi, j'étais 200 mètres devant. Il y a un type qui, en plein Shabbat, il lave sa voiture, comme ça, avec la radio ouverte. Ah, du coup, il voit au bout de la rue, il a remarqué le Rav Ovadia arrive, là, comme ça, toute une clique de gens qui l'accompagnent. T'as rapidement, tac, il a fermé la radio. D'accord? Alors, il fait un interdit, parce que t'as fait un interdit, on ouvre la radio, tu fais un autre interdit en éteignant la radio. D'accord? Mais c'est clair qu'il a fait ça par kavod au Rav et par honte dans le public, comme ça, à transgresser le Shabbat. Ça, c'est clair que bien qu'il a fait une avéra, il garde son statut de juif. Il n'est pas appelé Mechalel Shabbat Befaresia, de façon publique. Alors, celui qui est Mechalel Shabbat Befaresia, de façon consciente, perd son statut de juif, en tout cas, en ce qui concerne le fait qu'il puisse compléter un minyan, ou qu'on puisse répondre à sa prière, ou à son kaddish, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle conscient? Et là, le gros problème. Il y a trois grands avis. Le Hafetz Chaim, donc le Mishnah Berurah, qui dit, c'est clair. Quelqu'un qui sait que c'est interdit, tu sais que c'est interdit. Oui, bon, ben ça c'est pour les religieux, moi je suis modéré, je suis bon. Il sait que c'est interdit, et il est appelé conscient de terminer. Tu sais, t'es conscient, point barre. Comprenez que Hafetz Chaim, c'est pas n'importe quoi, c'est un super, peut-être le plus grand possèque du début du siècle, d'accord? L'antithèse, celui qui est vraiment à l'opposé, c'est le Chazon Ish, qui dit, même quelqu'un qui sait que c'est interdit, même quelqu'un qui était éduqué de façon religieuse quand il était jeune, s'il n'a pas été éduqué vraiment dans les vraies bonnes bases du judaïsme, comme il se doit, on peut le considérer comme Tinok Shenishba, on va voir d'après quelles conditions. C'est quoi Tinok Shenishba? C'est un bébé qui a été pris bébé par les non-juifs et il ne sait pas qu'il est juif. Est-ce qu'il est conscient? Conscient de rien. Alors, il faut un bébé qui ne sait même pas qu'il est juif. Razonich dit, pas besoin que ce soit à ce point extrême. Même quelqu'un qui n'a pas été éduqué d'après la vraie religion comme il se doit bien, il a été à l'école juive, mais c'était une corvée, c'est difficile, c'était rien de bien, d'accord? Et il ne sait pas c'est quoi le vrai judaïsme. Il passait un peu à côté. Même école juive, même de tout ce que tu veux. Ça se peut que... Alors, comment on définira? Il dit, il faut amener cette personne-là à un tribunal rabbinique. Et eux... Il s'est marqué que Elokim Nitzav Ba'adat El, Dieu se présente dans la communauté, l'assemblée de Dieu. C'est quoi? Lorsqu'il y a un tribunal rabbinique, ils ont une aide spéciale du ciel, où ce sont des vrais bons juges rabbiniques, ils sont aidés du ciel pour trancher bien. Et eux vont examiner la personne, poser quelques questions, voir cette personne-là, à quel point elle est éloignée. Et vont dire, une personne comme lui, qu'est-ce qu'il faut faire comme ishtadlut, comme tentative pour le rendre conscient? Lui, aujourd'hui, il est appelé comme inconscient. Il faut qu'il y ait qu'il vienne un mois à Yeshiva, Yishvot Yosef. Il faut qu'il fasse trois séminaires, d'accord? Ouais, ils vont juger. Il faut qu'on fasse ces tentatives d'éducation pour qu'il connaisse c'est quoi le judaïsme. Et si après cela, il continue à être comme il est, là, il est appelé conscient. Pratiquement, qui va faire ça? Quand tu es maintenant en voiture à la synagogue, tu dis, écoute, viens, on t'a mis le tribunal rabbinique, on va te juger à quel point tu es responsable ou non. On va, tu vois, il t'a un mois à l'échiva maintenant en Israël, tu vas, c'est quoi? Après, si tu vas encore en voiture à l'échiva, à la synagogue, t'es appelé comme con. C'est très difficile. Donc, t'es pas le razonish, on est dans le flou. On est dans le flou. Il y a certains cas, on peut dire, quelqu'un qui est à l'échiva, ça c'est quoi? Il sent honte, il vient pas comme ça contre. Bon, ça c'est clair, tu l'en vas balader, c'est certain qu'il est out, d'accord? Le Rav Eliashiv, lui, il a une voix médiane, le Rav Eliashiv, donc peut-être le plus grand possèque au monde aujourd'hui. Il a 99 ans passé. Lui, il a une voix médiane qui dit comme ça, qui s'entend bien. Il dit comme ça. Quelqu'un qui habite dans une ville où il y a des juifs religieux, il est considéré comme conscient. Pourquoi? Tu es juif. Tu as vu des juifs qui se comportent différemment que toi en prenant une chose qui s'appelle la Torah. Va vérifier. Si tu n'as pas été vérifié, si tu aurais vérifié vraiment bien, tu aurais vu qu'ils ont raison. Tu ne l'as pas fait. C'est parce que ça t'embête. C'est pas commode, t'es paresseux, ça devrait changer un peu tes habitudes. Ok, donc tu es prêt à être un menteur pour ne pas être comme eux. Donc tu es conscient. Tu es en tout cas conscient. Tu as eu un exemple, tu as eu l'occasion d'aller vérifier, tu ne l'as pas fait. Rien que pour cela, tu es suffisamment conscient pour qu'on te considère comme conscient dans ton Hilul Shabbat, dans ta profanation du Shabbat. Par contre, quelqu'un qui habite dans une ville où il n'a jamais vu de juif religieux, ben il ne sait pas ce que c'est. Là, le Rav Eliashiv dit, on le considère comme Tinok Shishba, comme un bébé qui a été pris petit par les goïms, il ne sait même pas qu'il est juif. Le seul cas qui permettrait à un juif qui habite dans une ville où il y a des juifs religieux, la seule chose qui permettrait de le laisser dans la condition de inconscient, c'est s'il a été éduqué dans une autre religion. Ça veut dire, chacun, de façon humaine, a la nécessité de répondre aux questions existentielles. Une fois dans ta vie, tu poses la question, pourquoi j'existe? si une fois tu poses cette question, tu n'as pas le droit de continuer. Pourquoi tu existes? Si tu ne sais pas, peut-être que tu passes à côté. Le fait de ne pas répondre à cette question te rend coupable, te rend conscient, enfin coupable de ne pas avoir été quelqu'un d'authentique. Tu aurais dû aller vérifier. Tu sais que tu es juif, cette question se pose, va vérifier ce que c'est. C'est pas normal que tu as des juifs dans ton quartier, dans ta ville, va voir, va demander. Mais si maintenant, lui, il a reçu des réponses à ses questions, il est chrétien. Spirituellement, il y a une réponse à sa soif de sens. Il est bouddhiste, il est tout ce que tu veux comme religion. Quelqu'un qui dit, moi ma religion c'est athée. Non, ça va pas. Parce que athée c'est pas une religion, ça ne répond pas à la soif de réponse spirituelle, d'accord? Chacun a une soif de sens. Moi j'ai une neshama qui me dit, pourquoi je vis? Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi, ok, on peut aller atrophier cela. Mais de façon innée, c'est une réponse, c'est un moyen d'atrophier, d'amenuiser cela, de cette soif. Mais quelqu'un d'authentique, il a une soif. Autant dire qu'il y a une vérité. Il y a une vérité, je la cherche. Chacun en soi est sensible à la vérité et au mensonge. On peut atrophier cela. On va aller dire, non, il n'y a rien, c'est tout, il n'y a rien, rien, on n'est que le fruit du hasard. C'est un gros travail, hein. Pardon? Bien sûr qu'ils sont, s'ils n'étaient pas conquis, ils sont dans le beau drap. Ils veulent coucher avec une fille toutes les nuits. Comment je peux faire une chose pareille? Non, je suis le fruit du hasard. Je suis un plancton. Regarde, les singes sont comme moi. Je suis un singe amélioré. C'est pratique d'être un singe amélioré, d'accord? Mais s'il y a un créateur, et s'il y a une ancienne vérité, peut-être tu passes à côté. Ah, c'est très casse-pied. Aldous Huxley, un grand écrivain américain qui était un des plus grands défenseurs de la théorie du darwinisme, a dit, il est clair, c'est un type authentique au moins. Dans son mensonge, il est authentique. Il a dit, pour moi, c'est clair que le fait que je sois un tel grand adepte de la théorie darwinisme, c'est uniquement pour m'autoriser une liberté sexuelle. Il veut s'éclater. C'est ce que je veux, et comment on m'embête pas avec le bon Dieu? C'est clair. C'est ça la vraie raison. Maintenant, quelqu'un qui est authentique sentira en lui un besoin de réponse aux questions de sens. S'il a reçu une réponse à ces questions de sens par une religion, quelle qu'elle soit, alors bien qu'il sait qu'il est juif et qu'il habite parmi les endroits où il y a des juifs religieux, on pourrait le considérer comme inconscient. Donc vu que ce n'est pas clair. Maintenant, le type qui vient dans la synagogue, maintenant, en voiture, c'est un problème. Mon conseil, fuis. Tu pries autrement, voilà, tu pries autre part, tant pis, voilà, t'es terminé. C'est un problème.
C'est pas ça. Il vaut mieux quand même toujours aller chez dans un minyan.
Bien sûr. Bien sûr. Pardon. Comme on est juif, on est dispute. Alors le rave, ça embête beaucoup ce genre de trou. Alors si c'est un rave authentique, il arrive, oui, t'as raison, ok. Mais c'est très compliqué de dire aux gens, lui on peut pas parce qu'il est là. Il a peur du. Toi, tu peux voir le rave en douce, tu verras comment il réagit. S'il réagit intelligemment, alors c'est très bien, il dira, écoutez, on ne peut pas prier. C'est compliqué, c'est très compliqué des fois des choses pareilles. Je comprends qu'il ne veut pas blesser, surtout que c'est qui vient en voiture? C'est le président de la communauté, d'accord, qui a beaucoup d'argent. Ici, il lui dit ça un truc, il est dehors demain, il reçoit sa lettre de mission, c'est très dur. Mais toi, la poudre d'escampette, tu pars et tu pries, si possible, un minyan qui est cachère, sinon, tout seul. Hein, ils n'ont pas de minyan. Alors, Baruch HaShem, ils n'ont pas de minyan, parce que toutes les brachot et tous les amen sont les batelas. C'est un dur problème, c'est un très dur problème.
Rescat kasher ou faut pas demander à tout le monde personnellement?
J'ignore, rescat kasher, ça dépend où. T'es dans le bled du bled, rescat pas kasher, moi j'aurais dit. Il faut être réaliste. Hein.
Sur un Yehudi, en théorie,
Pas de réponse. Baruch HaShem.